Recto, verso. Vanessa Longepierre.
C'est pour son parcours incroyable que j'ai eu envie de rencontrer cette femme à la beauté cristalline. Cheveux d'argent, iris émeraude, voix douce et mélodieuse, posture à la fois humble et affirmée. Mado est une femme née dans les années 40 au parcours de vie saccadé et atypique. La richesse de ses expériences, l'éclat de sa sincérité et sa foi en la vie nous emportent dans un récit empreint de maturité et de sagesse. Mado nous raconte.
Recto verso.
Installez-vous confortablement, nous partons en confidence. L'équipage vous souhaite un beau voyage.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
Yes, it was my way.
Si je cherche un sens à ce choix, d'abord, il y a la beauté de sa voix. J'aime beaucoup cette voix. Je la trouve très chaleureuse. Et elle me prend. Elle me prend. Et si je dois essayer de trouver une raison à l'origine de ça, ça pourrait être un problème avec l'abandon. Pendant la guerre, ma mère est partie à l'hôpital pour accoucher d'un de ses enfants. Et moi, je me suis sentie abandonnée. Je me suis retrouvée dans la rue, je la cherchais partout. Puis je me suis perdue dans la ville de Troyes. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais réellement perdue, quoi. Parce que j'avançais dans les rues et puis j'étais recueillie par un gendarme qui m'a amenée chez lui et ils ont essayé de me consoler. Et à l'époque, ils me donnaient des sucres parce qu'un sucre, c'était déjà une friandise à ce moment-là. Donc un sucre, et puis moi, j'arrivais pas, j'étais inconsolable. Voilà le souvenir que j'ai. Déjà à l'époque, les femmes tombaient enceintes. Hein. Elles ne choisissaient pas, donc elles tombaient enceintes et on était 6, une famille nombreuse, c'était assez courant à l'époque. J'étais la deuxième. J'avais une sœur aînée assez turbulente, moi j'étais la petite raisonnable. Qu'on appelle une résiliente. Donc ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait de spécial qui m'a amené à... Alors que mon destin aurait été plutôt quelque chose comme le malheur, ce qui est arrivé à mes frères et sœurs, moi j'ai plutôt décidé de construire un mode de vie pour être plus heureuse. Parce que je pense que le bonheur, on doit le construire. Il faut le construire. Quand il ne vous est pas donné, il faut le construire. Et puis bon, on a des natures différentes. Moi, je suis plutôt rebelle. Je ne suis pas quelqu'un qui peut subir. J'ai besoin d'être à l'origine des choses. C'est-à-dire d'être dans une création, quoi. Que ce soit dans ma vie privée, dans mon mode de fonctionnement au quotidien. Je ne suis pas vraiment dans les conventions, quoi. Ce qui est établi, ce qu'on dit être le bien. Parce que j'ai réinventé ma vie, quoi. Moi, je suis ce qu'on appelle une goye, mais j'ai eu mon mari, le père de mes enfants, qui était juif. Et donc, j'ai hérité de son nom et je l'ai conservé. Et je l'ai adopté parce que je pensais, un nom, c'est comme un mantra. On le répète très souvent. Donc, ça a une influence sur nous. Je crois beaucoup à l'influence du nom. Parce que le nom que je porte, en fait, je m'appelle Préto. C'est pas un nom, c'est un nom banal qui est pas spécialement ridicule. Mais je ne pouvais pas prononcer le nom de mon père parce que mon père a été très très dur. À l'époque, c'était assez courant les martinets dans les familles. Les gosses, on les élevait comme ça, un coup de martinet. Il fallait les dresser. Comme on dresse les animaux, quoi. Enfin, je crois que même les animaux, faut pas les dresser comme ça. Faut pas les battre. Donc, ce nom de mon père, je pouvais plus le porter, quoi. Ce qui fait que par la suite, quand j'ai eu 15 ans, que j'ai rencontré mon mari, évidemment, j'étais un peu précoce. j'ai trouvé que Goldstein, ça pouvait faire. Ça pouvait être un horizon plus, plus prometteur. D'ailleurs, je rejetais tellement le nom de mon père que j'arrivais toujours en retard. Parce que ça s'écrit Préto, avec T-O-T. Et systématiquement, j'étais en retard. Et même maintenant, je bataille pour sortir de là, quoi. J'essaye de faire... Tu vois, par exemple, je suis venue un petit peu en avance au rendez-vous, là. C'est bien, je me félicite. J'ai voulu voir ce que c'était d'un peu plus près, ce qu'était être juif. Enfin, lui est parti en Israël pour faire l'expérience du kibbutz, c'est-à-dire la vie communiste, c'est-à-dire dans le sens de mettre tout en commun, le partage intégral. Et moi, ça me convenait très bien parce que je m'étais sentie victime de beaucoup d'injustices. Et je voulais voir ce que c'était que la justice, le partage, l'égalité dans la vie réelle. Comment ça s'incarnait pour de bon. Et que ce n'était pas simplement au fronton des mairies. Liberté, égalité, fraternité. Je crois que j'ai trouvé ça dans le kibbutz à l'époque. Curieusement, je ne suis pas du tout du côté des Israéliens avec leur manière de faire, parce que j'ai découvert que je m'étais laissée abuser sur l'origine de la captation des terres, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était juste après la guerre, il a fallu trouver un lieu pour se replier, et tous les juifs du monde voulaient... avait enfin une terre. Mais il se trouve que j'ai connu un petit peu Ben Gourion, qui était le premier chef d'État. C'était aussi quelqu'un qui vivait en partie en kibbutz. Donc il était le premier ministre, chef du gouvernement. Et puis en même temps, il partageait son quotidien à égalité avec les autres. Enfin, tant que c'était possible, parce qu'il avait quand même des responsabilités au niveau de l'État. Et ça, c'est des choses qui me satisfaisaient beaucoup. Moi, j'ai rencontré aussi Golda Meir, qui était, elle, la ministre de l'Intérieur, et qui était aussi une femme assez exceptionnelle, mais qui vivait aussi en partie au kibbutz. C'était étonnant de rencontrer des gens qui avaient un si haut niveau, des responsabilités d'un État et qui en même temps vivaient dans un partage égalitaire avec les autres. Moi, par exemple, j'ai fait la vaisselle avec elle. En fait, il faut savoir que les kibbutz, ça ne représentait à l'époque où j'y étais et maintenant encore moins, 5% de la population. Les gens qui sont conscientisés par le fait du communisme intégral, du véritable communisme. C'est-à-dire celui qui fait que, bon, on ne vit plus dans une illusion religieuse, mais qu'on essaye de faire en sorte que la vie soit plus... ou le paradis, je mettrai ça entre guillemets, bien sûr. Ce serait le fait de vraiment partager le quotidien dans la justice, quoi. Et là... J'avais l'exemple autour de moi de gens qui étaient à la fois cultivés, mais qui travaillaient de leurs mains. Parce que cette conscientisation, elle se faisait aussi par la culture aussi. On ne pouvait pas aller au kibbutz sans savoir ce qui nous attendait. La plupart des gens choisissent de... Enfin, disons, leur idéal de vie, c'est de gagner plus, pour avoir davantage, etc. Là, c'était le but premier, c'était le partage. Le partage dans la fraternité, je l'ai véritablement vécu. Donc c'était une sorte de consolation de ce que j'avais pu vivre plus tôt, dans la mesure où à 14 ans, j'ai été obligée de me placer comme domestique dans une famille qui m'a beaucoup exploitée. C'était des commerçants dans un quartier chic de Paris, mais moi je vivais dans un placard quasiment. Et payer trois fois rien, et le peu que je, je gagnais, il fallait que je le donne à mes parents. Alors j'ai fait une psychanalyse plus tard, qui a duré 4 ans, et qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, parce que je vivais beaucoup dans la peur, et il y a des choses qui pouvaient, malgré ce que j'ai pu vivre au kibboutz, je suis restée 5 ans quand même. Ces 5 ans, ça m'a donné quand même le temps, parce que j'ai eu mes deux premiers enfants, là-bas, ça m'a donné le temps de pouvoir expérimenter sur la longueur ce que c'est que vraiment une vie communautaire où on partage tout ce qu'on a. Mais ce kibboutz où j'étais en particulier, on partageait même les vêtements. C'est-à-dire qu'il y avait une laverie, on mettait ses vêtements. Alors, le plus gros, c'était les vêtements de travail. Parce que c'était, en fait, c'était une vie de fermier. Qu'on vivait, on faisait de la cueillette d'oranges, de bananes, tous les agrumes. Puis il y avait une petite fabrique pour faire des jus de fruits à base des oranges et des citrons qu'on récupérait. Et puis aussi les olives qu'on mettait en bocaux. Donc on pouvait changer de poste de travail et on faisait tout sur place, y compris les vêtements. C'est-à-dire il y avait plusieurs ateliers. On travaillait à peu près 8 heures par jour. On allait ramasser le coton quand c'était la saison. Des choses qui peuvent paraître très exotiques comme ça quand on vit en France. Mais j'ai vu tout ça de plus près, les avocats, etc. Il y avait des parties communes et puis des parties, je dirais, plus privées. Bon, on se visitait les uns chez les autres. Les petits apparts, ça comprenait en fait à peu près 2 chambres, selon qu'on avait des enfants ou pas. Mais les enfants, ils étaient élevés en urserie depuis assez petits. Mais on voit constamment ces enfants quand on est au kibboutz. On leur rend visite, ils sont répartis par 8. Et la personne principale qui s'occupe d'eux, elle a aussi des enfants, parce qu'on estimait que pour pouvoir s'occuper des enfants des autres, ça c'est sans doute discutable, il faut avoir eu soi-même des enfants. Bon, j'ai pu voir comme ça mes enfants au kibboutz, j'étais très contente parce qu'ils étaient gâtés finalement. Hein. Ils allaient tous systématiquement jusqu'au niveau du bac. Et puis ils travaillaient progressivement. Quand ils avaient 14-15 ans, ils donnaient des coups de main. Et petit à petit, le travail de la ferme, de l'agriculture, était intégré à leur vie. Donc ils avaient le niveau bac, à peu près, hein, en équivalence. Mais ils ne passaient pas le diplôme. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de gens qui soient gagnants, puis d'autres perdants. Toujours dans cette idée de... d'être dans la solidarité. On ne recherchait pas la compétition, comme dans nos sociétés, où c'est le meilleur qui gagne. On cherchait plutôt le... Donc le contraire de la compétition, c'est quoi? C'est la coopération, voilà. Coopération, et c'est toutes ces valeurs-là que j'appréciais au kibboutz. En plus, bah, quand on avait fini sa journée de 8 heures, finalement, c'était pas si mal parce que le repas était prêt. On pouvait se mettre les pieds sous la table. C'était une autre équipe qui préparait à manger pour les autres. La créativité artistique dans les kibboutz. Le soir, il pouvait y avoir un violoniste parmi les gens qui avaient conduit le tracteur toute la journée. La musique était très prisée. Il y avait toujours un théâtre, il y avait une bibliothèque. tout ça était très valorisé. Le niveau culturel était assez étonnant. Quel serait le meilleur moyen de favoriser une société égalitaire où il n'y ait pas les gagnants d'un côté et puis les perdants de l'autre, quoi. Voilà. Donc la redistribution est première là dans cette affaire. C'est bien d'ailleurs ce qui me plaisait et qui me consolait de toutes les humiliations que j'ai pu avoir quand j'étais chez des patrons, quoi, parce que j'étais la dernière roue du carrosse. C'était humiliant ce que je faisais. Hein. J'entre pas dans le détail, mais à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de... C'était... Tout se faisait à la main, et ça implique de donner du sien, et puis de... Ça pouvait être des tâches très fatigantes. Mmh. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand je préparais pour le théâtre le décor. Okay. Je faisais des décors, j'adorais ça, j'avais des dispositions pour le dessin, pour la couture, puis j'avais un sens de la couleur, et puis le théâtre m'intéressait. Je trouvais que vivre d'autres histoires que la nôtre, en déployant un imaginaire... des fictions, ça me plaisait beaucoup. Ce qui a été difficile, c'est quand j'en suis partie. Ça a été dur pour moi, parce que il fallait rentrer, parce que à cette époque-là, je pensais que le fait que mon mari, le père de mes enfants, veuille terminer ses études, c'était important pour lui de le faire, et comme je n'avais pas pu le faire, moi, je le vivais par procuration. Donc je l'encourageais, je faisais beaucoup pour lui, et j'étais partagée entre cette vie qui me paraissait, je ne dirais pas idyllique, mais juste, parce que, bon, l'amitié, les fêtes étaient très présentes, on dansait, avoir appris la langue aussi. Tout ça, j'avais 18 ans quand je suis arrivée, je venais juste d'avoir 18 ans, donc on apprend rapidement, quoi. Et puis, comme c'est la langue commune à des gens qui viennent de tous les pays du monde, il y avait des Russes dans le kibboutz où j'étais, il y avait beaucoup de Russes, mais il y avait aussi des Américains, des Anglais, il y avait quelques Français, pas tellement d'ailleurs, des gens, des Latinos, des gens qui venaient d'Argentine. Ça, j'aimais beaucoup. Ce côté international, cosmopolite, me plaisait énormément. C'est très enrichissant. D'ailleurs, j'ai fait un peu d'espagnol avec une Argentine qui m'apprenait la botanique en parlant en espagnol. Voilà. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Je m'intéressais beaucoup à l'éducation. J'ai lu toutes sortes de bouquins à l'époque sur l'éducation des enfants. J'avais lu Bruno Bettelheim, qui est un grand pédagogue juif d'ailleurs aussi, qui avait écrit un bouquin sur les enfants au kibboutz. Les enfants au kibboutz, il avait un peu analysé la place qu'ils pouvaient occuper au kibboutz. Elle était très favorable pour leur psyché. Parce que si le père, par exemple, pouvait être défaillant, ça pouvait arriver, hein. Il y avait d'autres modèles. Donc un enfant avait à sa disposition des modèles à imiter, puisque l'éducation, elle se fait comment ? Par l'imitation. Hein. Les mots ne servent pas à grand-chose. En fait, c'est le fait d'être, le fait de faire... amène les enfants à se construire parce que il se fait par, je le redis, l'éducation fait par l'imitation. D'ailleurs, les oiseaux là qu'on entend en ce moment, ils s'imitent les uns les autres. Hein. C'est comme ça qu'on a des modèles. Hein. Alors ça peut être dans la littérature. Moi, dans la littérature, j'avais comme modèle d'abord George Sand et Colette. C'était pas mal comme modèle. Et juste avant de partir au kibboutz, j'ai lu « Mémoires d'une jeune fille rangée », le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. C'était Simone de Beauvoir, la grande féministe, donc qui venait un peu nourrir ce besoin de justice que j'avais en moi. Et quand on se met à s'intéresser à l'histoire des femmes, on se rend compte à quel point elles sont doublement victimes, quoi. En fait, c'était des femmes artistes qui savaient s'exprimer sur leur vie intérieure et qui avaient des ambitions de se dépasser. Elles étaient dans une forme de dépassement. Hein. Et donc, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidée. Hein. Voilà, quand on ne trouve pas des modèles à imiter dans sa vie propre, on peut les trouver dans la vie d'auteurs. Oui, ça je le sais. Voilà, et Simone de Beauvoir aussi, bien qu'on ne vienne pas du tout du même milieu social, mais Simone de Beauvoir a bien décortiqué le phénomène de la dépendance des femmes. Et c'est elle qui m'a instillé le fait qu'avoir son indépendance économique, c'était très important, quoi. Voilà, parce qu'on risquait de dépendre de quelqu'un qui pouvait vous exploiter ou vous dominer. Bon, moi, j'avais un mari qui était quand même pas mal plus âgé que moi et qui me dominait intellectuellement. Je l'admirais beaucoup parce que c'est lui qui m'a donné le goût des livres, qui m'a fait lire Proust, qui m'a fait visiter des musées, écouter de la musique. Pourquoi je l'admirais aussi ? Parce que il venait pas du tout d'un milieu cultivé, mais lui-même était extrêmement cultivé parce qu'il avait le goût, il avait le goût des études, en particulier la philo. Je suis intéressée par tout ce qui est du domaine de la pensée, de la dialectique. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. Donc il y a la partie artistique et la partie intellectuelle chez moi. Et je suis très manuelle. En fait, j'essaye d'équilibrer ces trois aspects de moi-même dans ma vie. Quand j'étais enfant, que j'étais placée, moi je pleurais beaucoup, hein, puis je rêvais énormément. Je rêvais d'un lieu de vie que je ferais quand je serais plus grande. Et je me disais toujours, plus tard, tu t'en sortiras. J'avais déjà ce leitmotiv en moi. Les enfants, je voulais les élever. Je les élevais sans télévision. Je n'achetais pas de jouets. On les fabriquait nous-mêmes. À l'époque, quand ils étaient petits, je les incitais à faire des choses à partir de récupération. Et ça, ils l'ont gardé, ils l'ont conservé. Et moi-même, d'ailleurs, puisqu'il était question quand même pour moi de trouver une solution pour gagner ma vie, parce que je n'avais pas vraiment de métier, quoi. Je savais faire des tas de choses, mais ce n'était pas sanctionné par un diplôme. Et j'avais d'ailleurs... J'avais du mal quand on me demandait qu'est-ce que j'avais comme diplôme. J'étais très... Je n'osais pas dire ce que j'avais fait. J'avais même honte. C'est terrible d'avoir honte d'être pauvre et de ne pas avoir de diplôme. Maintenant, je raisonne tout à fait différemment parce que j'ai les moyens de le faire. Je m'entendais plus très bien à l'époque avec mon mari parce que je trouvais qu'il me dominait trop. J'avais envie de liberté et pour moi, il a été question de divorcer. Et pour que j'en arrive là, il fallait que j'aie de quoi gagner ma vie. Alors, comme je fabriquais des choses avec mes enfants, je suis partie de choses très simples. Je faisais des poupées à mes filles, je leur faisais des marionnettes, on inventait des scénettes. Et la voisine me dit « Ah, elles sont pas mal tes poupées, tu m'en ferais pas une ?» Alors j'en ai fait une pour la voisine, et puis la voisine de la voisine. Et puis comme ça, ça s'est propagé jusqu'au jour où il y avait une vente qui était proposée pour Noël, comme on fait maintenant, comment ça s'appelle là, le marché de Noël. Alors je me suis mise à faire, je me suis dit « Bah tiens, tu pourrais peut-être en vendre dans un marché de Noël. » Et ça a commencé comme ça. Donc je faisais tout à partir de récupération. À l'époque, j'allais surtout pas acheter du tissu. Il y avait de quoi faire. Il y avait des bourses aux vêtements à l'époque où on pouvait puiser dans tous ces tissus, de quoi faire des vêtements, des costumes, etc. Alors j'ai commencé à les faire en papier mâché pour les marionnettes. Parce que j'allais de la marionnette, je faisais également les vêtements de mes enfants, leurs costumes pour se déguiser. On faisait beaucoup de théâtre à la maison. Alors ça allait bien avec leur père parce qu'il aimait le théâtre aussi. Donc on faisait du théâtre tous ensemble, on avait de quoi s'amuser. Et puis... Donc j'ai fait ce marché de Noël, j'en ai très bien vendu. Et il n'y avait pas toutes ces importations chinoises à des coûts vraiment ridicules. Il n'y avait pas cette consommation qui a à l'heure actuelle. Et donc l'artisanat était redevenu en vogue. Il y avait des gens qui fabriquaient des... c'était la mode, un peu la mode hippie. Hein. Et donc j'ai vu que je n'arrivais pas à fournir ce qu'on me demandait. Il fallait que les gens fassent la... Parce que alors, j'en avais préparé d'avance, mais moi, mon truc, c'était l'expression du visage. L'expression du visage, c'est très important. Parce qu'un enfant, il regarde... ce qui émane d'un visage, ça lui dit quelque chose, ça l'oriente vers quelque chose. Il faut que ce soit bon. Il faut que le regard soit bon. C'est très important, ça. Ouais. Toujours dans cette idée que moi, étant enfant, il n'y avait pas un regard bon envers moi. J'étais toujours dans la punition, on était punis, on était toujours dans le péché. C'était affreux, hein, c'est mélangé à la religion. Il a fallu que je me débarrasse de toutes ces illusions par la suite. Ça a pris du temps parce que pour moi, la religion, c'était un refuge. Et mon père, c'était Dieu, tout simplement. Voilà. J'étais très ambitieuse. Hein. Mon père, c'était Dieu, mais pour de bon. Donc je reviens de loin de ce côté-là. Parce que je me dis que maintenant, c'est ici et maintenant, sur cette terre-là, qu'il faut que la justice et le partage adviennent. Et non pas, plus on a souffert sur terre, plus on aura droit au paradis. Ça a été un facteur d'encouragement incroyable. Je me suis dit, t'as trouvé quelque chose, ma petite, là. Tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. À l'époque, c'était pas un petit boulot parce qu'il a fallu que je fournisse. Et j'ai trouvé des aides autour de moi, de gens qui avaient aussi besoin de gagner un peu d'argent et qui pouvaient participer à l'atelier. Voilà, et donc... ces poupées ont donné lieu pour moi, parce que c'était un objet affectif quand même, la poupée, ont développé mon imaginaire dans le domaine de la représentation, d'abord pour les enfants, puis après je me suis rendu compte que je pouvais travailler sur d'autres thèmes que l'enfance. Et j'ai commencé à réaliser des choses pour les adultes. J'ai fait une expo sur les bateaux-mouches à Paris, où il y avait des concerts sur les bateaux-mouches. Et là, il y avait de la bourgeoisie qui venait, des gens qui avaient quelques moyens. Et parallèlement, hein, par exemple, à un concert, je faisais toute une mise en scène avec des personnages. Et ça marchait bien. J'avais des ventes. Comme je les vendais beaucoup plus cher que les autres, c'était des personnages signés, des pièces uniques. Voilà, donc ça aussi, tout ça, ça m'a encouragée. J'ai continué. Mes poupées aux Galeries Lafayette, chez Matsuzakaya, une société japonaise. Et donc après, j'ai eu des commandes pour le Japon et pour les États-Unis. Alors les Japonais voulaient certains types de poupées. Les Américains, d'autres types de poupées. Par exemple, ils n'aimaient pas du tout le vert. Il ne fallait pas que je fasse de vert. On s'était aperçu que le vert, c'était une couleur qu'il ne fallait pas... Peut-être que maintenant, ça changerait, parce qu'il y a l'écologie qui est arrivée. C'est de la sociologie, tout ça. Hein, c'est, voilà. Les Japonais voulaient beaucoup de noir. Il y a eu cet épisode-là, qui a duré quand même une vingtaine d'années. Ce qui m'a permis de m'acheter une vieille ruine, que j'ai payée trois fois rien d'ailleurs. J'ai payé pas cher du tout la maison dans laquelle je vis. Au départ, c'était une ruine totale. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. La ruine intégrale. Il y avait juste une partie où il y avait encore un toit qui fuyait. Et c'est là que je me suis installée. C'était d'abord et avant tout un atelier. Et puis, donc j'avais fait une espèce de... l'équivalent d'un village lacustre, je ne sais pas comment dire. J'avais fait des mezzanines et tout autour, il y avait des étagères pour installer les poupées que je fabriquais au fur et à mesure. Voilà. J'avais pris aussi une fille qui était avec moi, qui travaillait avec moi dans l'atelier. Et progressivement, on a remonté cette ruine. Ça a pris quelques années quand même, pas mal. D'ailleurs, en ce moment, je continue. J'ai pas fini. C'était une sacrée aventure parce que les poupées m'ont amené à faire la maison. La maison m'a amené à faire des expositions, d'autres artistes, des gens qui peignaient. On fait quelques représentations de théâtre, de musique. Et il y a eu des stages. Toutes sortes de stages. Si je dois résumer pour aller plus vite, parce que tout ça a engendré ça, j'ai 78 ans, donc il y a du temps qui est passé. Donc il faut que j'arrive à résumer toutes ces périodes de ma vie qui m'ont amené à être ce que je suis maintenant et à faire ce que je suis. Et pour moi, une vie, c'est arriver à se réaliser au niveau de la sagesse. C'est un bien grand mot, mais c'est avoir, s'être débarrassé des illusions, pour moi, des illusions religieuses, parce que je crois que ça limite énormément le fait de penser que on vivra après notre mort. Il me semble que ça limite les possibilités qu'on peut avoir ici et maintenant. Parce que le progrès social, il vient de là aussi. Il vient du fait qu'il faut qu'on arrive à réaliser, c'est sans doute une forme d'utopie, mais on essaye de s'en approcher, d'y coller. Même si de son vivant, on espère que quand même un jour, les hommes arriveront à s'entendre. Toutes ces choses qui se sont succédées, c'est une construction. C'est une construction de vie. Inventer sa vie, travailler beaucoup sur la pensée positive, ça aide énormément. Savoir qu'au lieu de se dire « on n'y arrivera jamais, j'entends ça autour de moi, je supporte très mal », parce que je me dis « mais non, toi tu t'en es sorti, tu es sorti de l'injustice, d'une forme de pauvreté, c'est pas que je sois devenu riche, mais je peux vivre à peu près normalement, quoi ». Et puis réaliser qu'on peut toujours progresser, faire avec les moyens du bord, surtout dans une société du gaspillage comme la nôtre. Les objets du temps passé, c'était des beaux objets. Et c'était fait pour la vie, donc il y avait ce côté main qui moi, me plaisait beaucoup, la belle matière. Hein. Par exemple, on a fait les murs en plâtre. On a fait un plâtre projeté à la main sur des murs qui n'étaient pas droits. Et on n'a pas essayé de redresser avec du placoplâtre comme ça se fait maintenant, ce qui veut dire qu'on aurait rétréci les pièces. Et en même temps, c'est très beau, un mur qui n'est pas absolument droit. Le côté imparfait, ça donne lieu à une matière que... apprendre à travailler le plâtre, c'est intéressant. Puis ensuite, apprendre à le cirer, à la cire d'abeille, comme on cire un meuble. C'est beau tout ça. Ça donne une ambiance dans une maison. Les matériaux nobles, les matériaux d'origine naturelle, comme le bois, la pierre, la terre. À la sortie, c'était se former aussi dans ce domaine, hein. On a tout appris. Moi, j'ai lu quelques bouquins sur l'architecture vernaculaire. Ça s'appelle comme ça, la maison que les gens construisent eux-mêmes. Comme ça, c'est presque toujours fait. Hein. D'ailleurs, on y revient maintenant. Des données fondamentales, c'est la question du courage. Il faut s'y atteler. Mais aussi, au début, c'est dur, mais on y prend goût parce qu'on voit un résultat. Et ce résultat amène à poursuivre. Voilà. On voit qu'on est capable. On le découvre. J'ai abandonné la religion, mais il m'en reste quelque chose. Il m'en reste des aspects nobles de la religion. Parce que, par exemple, je trouve que le message... christique est un magnifique message. C'est qui se résume à « aimez-vous les uns les autres ». Pour moi, c'est toujours ça. J'aime les gens, j'aime les autres. Je m'intéresse aux personnes. Je m'intéresse à l'humain dans les personnes que je... J'essaye toujours de trouver ce qu'il y a de plus humain en eux. Ça m'enrichit comme... Ça m'enrichit de voir les choses sous cet angle-là. C'est très important pour moi. Je crois que j'ai un fond qui est plutôt joyeux. Mais le destin a fait que j'ai eu quand même des aspects très... très dur dans ma vie, qu'il a fallu que je surmonte. C'est aussi pour ça que je, pendant des années avec mon compagnon qui est récemment disparu, je me suis occupée des sans-papiers, des gens en difficulté. J'ai fait de l'accueil à la maison aussi. À travers tout ça, pendant que je construisais ma maison, il y avait aussi des gens que j'ai récupérés, qui étaient sur les bas-côtés. J'ai récupéré, par exemple, deux personnes qui étaient clochardisées, qui ont vécu pendant quelques mois à la maison, que j'ai aidé à émerger. Il y a ce côté-là chez moi, un peu sauveuse. J'aurais aimé faire plus. Je crois que je suis assez gourmande. Hein. Je crois que j'ai horreur de la médiocrité. Par exemple, la dimension esthétique dans ma vie est extrêmement importante. C'est une consolation pour moi. Le beau, dans tous les domaines. Hein. La beauté morale, bien sûr. Moi, j'admire des gens comme l'abbé Pierre. Je sais que c'était le chouchou à un moment de tout le monde, mais c'est une figure magnifique. Quoi. Quand Barack Obama a été élu, j'en ai pleuré, quoi. Des choses comme ça. J'ai eu une vie intéressante. Elle était dure, mais intéressante. Parce que le fait de construire sa vie, de l'inventer, d'imaginer, de sortir de situations dures, accéder à plus de beauté autour de moi, faire de la beauté autour de moi. La botanique, par exemple, m'intéresse beaucoup. En même temps, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau. Il faut toujours que ce soit beau, les choses, pour moi. C'est très important. Ça me console. Ça me console, ça m'élève. Voilà. Je suis une idéaliste, finalement. J'ai eu ce qu'on appelle des moments de pensée océanique. C'est-à-dire, c'est quasiment religieux. C'est des moments où on a l'impression de sortir de son corps et d'embrasser la beauté du monde. C'est une sensation qui est absolument incroyable. Ça s'appelle la pensée océanique. Certains auteurs en ont parlé. Je l'avais lu dans Jean-Jacques Rousseau, mais j'ai eu très tôt des situations comme ça. Ça s'est reproduit, je pense, que si je devais les additionner 4 fois dans ma vie, des situations de pensée océanique où on est parfaitement heureux. C'est comme si, en fait, que j'embrassais la beauté du monde, c'est-à-dire le fait d'exister. Donc c'est quasiment religieux, bien que je ne sois pas religieuse. C'est étonnant ça, hein, parce que c'est une sensation qui envahit le corps. C'est comme si on décollait de son corps. Et en général, ça arrive dans des moments où on se trouve dans la nature, dans un paysage, un beau paysage, voilà, où on en jouit parfaitement. On est parfaitement heureux dans ce paysage. Voilà, des très bons souvenirs. Avoir accès à ça, c'est pas rien quand même. Mon vœu actuellement, il est que la question du changement climatique et le royaume du gaspillage. Tout ça, c'est des choses qui me touchent énormément. Hein. C'est pas intellectuel, là. Je voudrais que l'humanité prenne conscience des dégâts qu'elle a fait à la planète et change vraiment pour de bon. Cette atteinte à la nature, cette blessure grave et des choses dont on ne pourra pas vraiment revenir, c'est ce que je souhaite, c'est que le monde change. Dans le sens du retour à ce respect de cette fameuse nature, cette beauté de la nature. Je voudrais mourir dans la paix. C'est à peu près du même ordre. Mais encore faut-il que certaines choses adviennent. J'aimerais que certains problèmes humanitaires soient réglés. Est-ce que c'est un vœu pieux? Mais je veux croire encore. Je veux croire que certaines choses comme ça peuvent exister.
Et le cotonou et les mamans. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien.
Le bonheur, on doit le construire. Il faut le construire. Quand il ne vous est pas donné, il faut le construire. Je suis une idéaliste, finalement.
C'était Recto Verso, une émission réalisée avec la complicité de Léo, Laure et Anne. Avec, aux commandes musicales, à la composition et au montage, Florent Hermet. Ce voyage vous a été proposé par Vanessa Longepierre et Radio BLV.
Recto.